À l'occasion de la réouverture de l'église Notre-Dame du Thor à Toulouse le 25 mars dernier, Radio Présence a participé à cet événement et tout de suite nous vous proposons de découvrir la conférence qui a été donnée et qui avait pour thème l'église Notre-Dame du Thor, témoignage gothique du patrimoine toulousain par Virginie Sesniak, maître de conférence en histoire de l'art médiéval.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors c'est avec beaucoup d'émotion, je l'avoue, que c'est avec une émotion non dissimulée que j'ai accepté la très gentille invitation de Philippe Foreau, parce que Notre-Dame du Thor est un édifice extraordinairement important, on ne le réalise peut-être pas suffisamment, un édifice pleinement emblématique de Toulouse, de son histoire, et ce à au moins deux niveaux. D'abord, d'un point de vue historique, alors je pense qu'en relatant l'histoire des origines de Notre-Dame du Thor, pour la majorité d'entre vous, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais comme nous le disions avec Philippe il y a peu, en matière de pédagogie, rien ne vaut la répétition. Donc je pense que c'est bien de revenir sur les fondamentaux. Donc c'est un édifice très emblématique pour l'histoire des premiers temps chrétiens de Toulouse, assurément. Et c'est aussi un édifice pleinement représentatif de l'architecture médiévale de l'époque gothique qui est, dans notre midi toulousain, original sur bien des points. Donc c'est véritablement un édifice de toute première importance. Et le retrouver après 3 ans de travaux ainsi embelli, c'est un vrai bonheur. Je déplorais depuis des décennies... Après avoir fait défiler dans cette église tous les ans des générations d'étudiants, je déplorais systématiquement qu'il soit aussi sombre, aussi sale, que les peintures médiévales dont je vais vous parler en dernière partie de mon intervention, qui ont été restaurées de façon tout à fait admirable au début des années 2000, eh bien, n'étaient pas mises en valeur et on ne pouvait pas apprécier cette restauration. Eh bien voilà, tout cela est derrière nous et j'en suis infiniment heureuse et enchantée de partager cela avec vous. Donc comme je vous le disais, en guise de préambule, un édifice emblématique, assurément, donc des premiers temps chrétiens de Toulouse. Des premiers temps chrétiens dont, vous le savez, il est extrêmement compliqué de démêler la réalité historique, de l'embellissement légendaire, assurément. Mais, alors c'est pas l'église en elle-même de Notre-Dame du Thor, c'est plutôt le lieu, en fait, qu'elle occupe dans la ville, est lié incontestablement à Saturnin, bien sûr. Saturnin, qui est considéré donc comme le premier évêque de Toulouse, qui fut martyrisé donc probablement en 250. L'adverbe est important parce que voilà, la fiabilité historique, comme je viens de vous dire, est relative pour ces faits très anciens. Le récit en fait du martyr de Saturnin, on le doit à différents auteurs et notamment à Venance Fortuna, qui est ce grand poète et hymniste latin, qui finira évêque de Poitiers, très proche de la très haute société franque de l'époque. Il vit dans la deuxième moitié du VIe siècle. Donc vous voyez qu'entre 250 et la deuxième moitié du VIe siècle, il y a évidemment un temps long. Et plus le temps est long entre le récit des faits et le déroulement supposé de ceci, plus évidemment la réalité, la fiabilité historique est ténue, assurément. Mais Venance Fortuna est quand même un homme relativement fiable. Il n'a pas travaillé que sur Saturnin, il a travaillé aussi sur Saint-Laurent, sur Saint-Médard de Noyon. Et il nous relate donc cet épisode tragique d'un Saturnin qui, refusant de sacrifier un taureau au nom de l'empereur romain donc, qui régnait en 250, qui s'appelait Dès, eh bien, s'est retrouvé attaché à la queue de ce taureau furieux qui a été lâché donc, dans les rues de la Tolosa romaine, à partir de la place du temple capitolin qui se trouvait, vous le savez, sur l'actuelle place Esquirol. Et l'histoire, embellie par la légende aussi, veut que le taureau furieux aurait emprunté la route de Cahors, qui correspond à l'actuelle rue du Thor, et le corps donc supplicié de Saturnin aurait fini sur l'emplacement ici de cette église. La suite de cette histoire et de cette légende relate le fait que deux jeunes femmes, qu'on appellera les Saintes Puelles, vont inhumer le corps sur place, et qu'assez vite, les premiers chrétiens de Toulouse vont venir en cachette vénérer en fait ce corps. L'emplacement sera marqué, et c'est toujours Venance Fortuna qui nous l'apprend, au IVe siècle, par un petit oratoire que l'on doit donc à l'évêque Hilaire, donc un petit oratoire qui marque en fait l'emplacement présumé du lieu d'inhumation de Saturnin. Puis, toujours Venance, nous... Non, pas Venance, puisque c'est postérieur, pardon. Par la suite, on apprend que... Au 5e siècle, c'est Exupère, voilà, Exupère qui décide de la translation du corps de Saturnin depuis ce petit oratoire jusqu'un petit peu plus loin, guère plus loin, mais un petit peu sur l'emplacement actuel de la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Et ici, on va quand même garder mémoire de l'importance de ce premier lieu d'inhumation en faisant ériger, alors a priori, là c'est toujours Venance qui nous renseigne, grâce aux libéralités du duc Launebold, qui fait construire donc dans les années 570 à peu près, une église donc, pour garder trace, pour garder mémoire de façon concrète de ce premier lieu d'inhumation de Saturnin. Et Venance Fortuna nous renseigne, et c'est très, très intéressant, sur le fait que cette église, financée par le duc de Launebold, aurait été peinte par son épouse Bertrude. Alors, ce n'est assurément pas cette duchesse mérovingienne qui se serait amusée à peindre les murs de cet oratoire, mais elle aurait été évidemment la maîtresse d'ouvrage de ces peintures. Donc c'est très excitant pour l'historienne de l'art que je suis, qui s'intéresse particulièrement à la peinture médiévale, de s'imaginer qu'on ait pu avoir ici même une église mérovingienne ornée de peintures murales de surcroît. Alors, c'est probablement les périodes mérovingiennes et carolingiennes pour lesquelles nous sommes le moins bien renseignés à Toulouse. Donc on ne peut pas véritablement vérifier tous ces éléments. Cela étant, nous disposons quand même de quelques éléments concrets, archéologiques, parce qu'il y a eu des fouilles qui ont été organisées dans Notre-Dame du Thor entre 1969 et 1970. Et qui, ben, malheureusement, n'ont rien donné. Nous n'avons pas pu déterminer en fait la présence d'éléments archéologiques, de substructions datant de l'époque mérovingienne ou de l'époque paléochrétienne, donc éventuellement le premier oratoire de Saint-Hilaire. Cela étant, 1969-1970, ça fait presque 60 ans, vous imaginez aisément que la technologie des recherches archéologiques a considérablement évolué, et je gage que si un jour on entreprend des fouilles, ce qui n'est en aucune façon d'actualité pour l'heure assurément, mais on pourrait éventuellement pousser les investigations un petit peu plus loin et peut-être trouver des éléments concrets qui fassent écho à ces données textuelles émanant majoritairement donc de Venance Fortuna. Donc voilà pour le contexte historique, donc un lieu éminemment symbolique, éminemment emblématique. Et l'église dans laquelle nous nous trouvons l'est tout autant pour l'architecture médiévale du Midi toulousain. Cet édifice est pleinement caractéristique, une grande nef dégagée de toute division intérieure. Vous voyez que même les gens dans le fond, je pense que vous me voyez très très bien. Ce type de nef unique est prévu précisément pour faciliter la prédication. Et de ce point de vue-là, Notre-Dame du Thor s'inscrit dans la création presque archétypale d'un type d'édifice que l'on retrouve dans l'ensemble du Midi toulousain, dont le premier modèle a été la nef dite faussement raymondine, c'est-à-dire la nef de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, qui a été mise en chantier au tout début du XIIIe siècle. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la nef de la cathédrale Saint-Étienne est en pleine restauration, elle aussi. La restauration devrait s'achever d'ici 2028, si j'ai bien le calendrier en tête. Et donc, on va pouvoir profiter aussi d'une nef de la cathédrale Saint-Étienne restaurée et beaucoup plus belle qu'elle ne l'était préalablement. Donc, un édifice qui s'inscrit dans cette lignée de construction avec des caractéristiques qui ne sont pas du tout anodines. Alors, On a parlé de gothique proprement languedocien, de gothique méridional. Bon, ces questions de vocabulaire sont affaires de spécialistes. Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que dans notre midi toulousain, on met en œuvre entre le début du XIIIe et la fin du XIIIe siècle, à partir de 1271, le moment où véritablement est créée la Sénéchaussée de Toulouse, au moment de la mort d'Alphonse de Poitiers et de Jeanne de Toulouse, sans descendance, vous le savez. Cette année 1272 qui marque le rattachement de Toulouse officiel, efficient à la couronne capétienne, l'introduction d'un gothique venu du Nord. Mais avant 1271, on a véritablement une architecture gothique tout au long du XIIIe siècle, originale, assurément. Et Notre-Dame du Thor s'inscrit dans cette création originale et que l'on peut qualifier donc de languedocienne, de méridionale, de toulousaine, comme vous le voulez, qui correspond donc à cette volonté de faciliter la prédication dans une terre où la dissidence chrétienne est quand même très active, pour le moins, depuis la fin du XIIe siècle. Alors Notre-Dame du Thor, donc, elle s'inscrit dans cet héritage. Et en fait, curieusement, c'est un édifice dont on connaît très mal la chronologie structurelle. Alors on a des idées, hein, je vais vous les communiquer, bien sûr, mais en fait, cet édifice n'a pas pu jusqu'à présent bénéficier d'une vraie étude du bâti. Alors autant vous dire que ce n'est pas moi qui vais le faire, moi je suis spécialiste de peinture murale, pas d'architecture, je laisse ça à mes collègues, notamment à mon collègue Jacques Dubois. Mais on n'a pas accès pour l'heure à une vraie étude archéologique du bâti de Notre-Dame du Thor. Ça s'explique en grande partie par le fait que ces structures justement ne sont pas directement accessibles. Vous vous rendez bien compte que l'église est totalement prise dans le tissu urbain de Toulouse, ce qui ne facilite pas l'accès en fait au mur extérieur. Et en outre, à l'intérieur, eh bien, évidemment, on apprécie l'importance du décor peint intégralement couvrant et de grande qualité, mais qui lui non plus ne facilite pas assurément la lecture du bâti. Alors, cependant, l'édifice a été étudié depuis le 19e siècle, on ne va pas remonter aussi loin. Nous disposons en fait de l'étude de Raymond Ray en 1930, de l'étude de Pierre Gérard et de Michel Rocachet plus récemment en 2004. Un master a été réalisé précisément sous la direction de mon collègue Jacques Dubois que je citais précédemment. Un master réalisé par Ludivine Place-Soupeau, donc qui ont permis quand même de donner quelques éléments avec des données qui recoupent des informations issues des sources textuelles. Et globalement, on peut avoir une idée donc à corriger, assurément, grâce, je l'espère, à une future vraie analyse du bâti. Mais on sait à peu près comment s'organise l'édifice. On pense qu'on s'inscrit dans une reconstruction, bien sûr, au XIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Cette reconstruction, elle concerne en fait les trois travées de nef. Alors la travée la plus occidentale est occupée aujourd'hui par le buffet d'orgue, mais par la tribune qui porte le buffet d'orgue. Mais voilà, les trois travées de nef sont reconstruites probablement dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. La façade, qui est une façade extrêmement caractéristique, avec ce clocher-mur tout à fait original, que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres édifices à peu près contemporains, l'église des Cordeliers de Toulouse, alors pas le clocher-mur, mais le traitement du portail, qui est finalement, quand on regarde l'édifice de l'extérieur, le seul élément en pierre. L'église Notre-Dame du Thor est intégralement en brique, à l'exception du portail en pierre, flanqué de part et d'autre de grandes niches caractéristiques. Et ce schéma, on le retrouve donc à l'église des Cordeliers de Toulouse, à Grenade, à Carbonne, à Lombèze, à Quélus. La liste n'est pas exhaustive, mais ça devient en fait un schéma qui est disséminé un petit peu dans l'ensemble du midi toulousain. Alors, est-ce que c'est véritablement la façade de Notre-Dame du Thor qui a servi de modèle ? probablement, parce que Toulouse reste quand même évidemment une référence pour la création architecturale à cette époque-là. Et le clocher-mur, évidemment, tout à fait caractéristique, hein, vous le connaissez tous, c'est un repère dans la ville de Toulouse. Eh bien, ce clocher-mur que l'on retrouve à Rabastens ou à Lavaur, notamment, là, est véritablement copié directement sur Notre-Dame du Thor. Donc, un édifice presque archétypal de cette architecture gothique, donc mise en œuvre dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, mais avec des modifications apportées au XIVe siècle. Alors, s'agissant du chevet, parce que pour l'heure, je ne vous ai parlé que de la nef et de la façade occidentale, le chevet, qui fonctionnait donc avec ces trois travées reconstruites dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que le chevet, donc, qui se développe derrière moi, a été considérablement modifié. Il a été modifié au XIVe siècle, mais également au XVe siècle et en partie au XIXe. Donc c'est plus difficile d'arriver à cerner ces évolutions. Mais on a un épisode très important de l'histoire de Notre-Dame du Thor qui a été magistralement étudié par ma collègue et amie Michel Fournier dans un excellent article publié dans les Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France en 2011. Et Michel Fournier n'a pas travaillé sur l'architecture, elle est historienne, elle n'est pas spécialiste de l'architecture, mais elle a travaillé sur le sanctuaire de Cadouin. Et le sanctuaire de Cadouin a été accueilli à Notre-Dame du Thor. Il était accueilli à Toulouse entre 1392 et 1455. Et entre 1392-93, on n'est pas tout à fait sûr, mais on sait jusqu'en septembre 1396, c'est assez précis, le sanctuaire de Cadouin va être exposé dans Notre-Dame du Thor. Et cette exposition va générer en fait une modification du chevet pour laquelle, cette modification, nous disposons de sources textuelles qui ont été scrupuleusement étudiées par Michel Fournier. Et cette étude, qui montre d'ailleurs entre parenthèses l'importance et l'intérêt de croiser l'analyse du bâti avec les sources textuelles, hein, il faut toujours faire œuvre de feu de tout bois et s'intéresser aussi bien aux textes qu'aux œuvres et qu'aux édifices. Eh bien, permet d'avoir une certaine idée de l'organisation donc, de cette exposition du sanctuaire et donc de Cadouin et donc de la forme que pouvait avoir le chevet originel avant ces transformations. Alors ce sanctuaire, alors d'abord pourquoi le sanctuaire de Cadouin arrive à Toulouse? Eh bien parce que il est conservé donc dans l'abbaye cistercienne de Cadouin qui se trouve en Périgord et dans cette seconde moitié du XIVe siècle, le Périgord est particulièrement exposé au conflit franco-anglais qui fait rage dans cette partie de l'Hexagone et donc Bertrand de Moulins n'a qu'une envie, c'est mettre hors de danger, le sanctuaire de Cadouin. Un sanctuaire donc, qui a été analysé dès les années 1930, hein, 1934 très précisément, et qui a révélé donc, dans cette première moitié du XXe siècle que le sanctuaire était en fait un très beau linge en lin blanc de 2,95 m sur 1 m de long sur 1,35 m de large. Vous voyez une très belle pièce de tissu bordée d'éléments ornés d'inscriptions koufiques et qui en fait est un linge probablement originaire de l'Égypte fatimide, que l'on peut dater de la fin du XIe, début du XIIe siècle. Peu importe, en 1392, XIVe siècle, on est convaincu bien sûr qu'il s'agit d'un sanctuaire authentique ayant contribué à envelopper le corps supplicié du Christ, donc on le considère comme une relique particulièrement insigne. Et donc Bertrand de Moulins se réfugie donc à Toulouse. Alors, je vous invite vraiment à lire l'article de Michel Fournier parce que c'est une arrivée absolument rocambolesque. Les capitouls se mêlent de l'arrivée du sanctuaire. Imaginez, c'est quand même une relique absolument exceptionnelle. Et les tractations entre les capitouls, les chanoines de Saint-Cernin, puisque bien sûr Notre-Dame du Thor relève en fait de Saint-Cernin. Je vous rappelle d'ailleurs que cette église est sous le vocable de Notre-Dame depuis 1534 seulement. Du XIIe jusqu'au XVIe siècle, on parle de la paroisse Saint-Cernin du Thor. C'est dire si le lien avec l'histoire de Saturnin, évidemment, est importante et immémoriale. Et donc, tractations diverses et variées entre les capitouls, les cisterciens de Cadouin qui, bien sûr, accompagnent le Saint-Suaire, les chanoines de Saint-Cernin pour savoir où on va exposer le suaire, comment, etc. Et finalement, il va être exposé donc, à Notre-Dame du Thor et on dispose donc, d'un certain nombre de descriptions de cette exposition qui nous permettent de comprendre comment pouvait s'organiser le chevet originel de Notre-Dame du Thor. Notre-Dame du Thor gothique, évidemment. Et donc, il s'avère qu'a priori, au regard donc des données textuelles, le chevet fonctionnant avec les trois travées qui subsistent était un chevet plat. Voilà, un chevet plat. Donc, une structure finalement très simple, très sobre. Et ce chevet plat va être modifié avec la création, alors je vais me tourner parce que c'est juste derrière moi, la création d'un petit oratoire que vous avez ici. Voilà, un petit oratoire donc de section rectangulaire avec une sur la clé de voûte d'ailleurs les armes de Bertrand de Moulins, l'abbé de Cadouin qui a sauvé le suaire des razzias franco-anglaises et l'organisation en fait de ce petit oratoire nous renseigne la façon dont c'est décrit dans les textes de l'époque nous renseigne sur le fait que ce sont les capitouls de Toulouse qui ont financé cette création. Ils se sont pas ruinés, hein, très clairement. Ça leur a coûté 300 écus, ce qui n'est pas une somme délirante, loin de là. Ils ont fait les choses simplement et à l'économie. On comprend, vous savez, la deuxième moitié du XIVe siècle n'est pas une période particulièrement faste d'un point de vue économique, assurément. Donc voilà, ils ont travaillé à l'économie, mais ils ont quand même directement contribué à la mise en valeur de ce Saint-Suaire. Et on apprend qu'il y avait donc des ferrures, donc on imagine une grille, voilà, pour protéger le suaire, et qu'il était enfermé dans un coffre en fer, fermé par 8 serrures, chacune disposant d'une clé individuelle. Donc, autant vous dire que le Saint-Suaire de Cadouin était véritablement en sécurité à Notre-Dame du Thor, particulièrement donc mis en valeur, mais derrière, voilà, des grilles. Autre élément extrêmement important qui nous apprend, des choses importantes parce que moi c'est quelque chose dont je me suis toujours préoccupée. J'ai posé la question d'ailleurs pas plus tard que tout à l'heure à mon collègue Christian Manche qui a échangé avec les restauratrices comme il va vous le faire part juste après. Et je me suis toujours demandé si on avait connaissance d'autres traces de peinture médiévale outre les peintures ici de la nef dont je vais vous parler après plus précisément. Parce que quand vous regardez les structures de Notre-Dame du Thor, vous voyez bien que la muralité des murs de cette nef, c'est-à-dire l'importance conférée aux murs, vous voyez que les baies sont quand même très étroites, on est loin hein, du gothique rayonnant d'Île-de-France, on a une muralité qui évidemment appelle un décor peint, c'est clair. Et donc la conception de cet édifice à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle était assurément destinée à recevoir un décor peint, sauf que de ce décor peint, nous ne conservons que cet élément. Or, dans ces travaux donc, sur la mise en valeur du Saint-Suaire de Cadouin, eh bien, Michel Fournier a trouvé mention de textes dans lesquels on décrit une peinture présente donc, dans le petit oratoire rectangulaire où se trouvait le Saint-Suaire, donc juste ici, juste là. Alors, on ne sait pas exactement comment ces peintures s'organisaient, parce que la description reste assurément trop succincte, malheureusement, mais il est fait mention d'une description qui date de la fin du XIXe siècle, qui stipule que se trouvaient donc, dans cet oratoire, sur la muraille, 8 capitouls peints. Alors, ils étaient probablement 12, et pas 8, mais 8 capitouls peints, représentés à genoux. Donc on imagine, là je spécule un peu, mais qu'ils devaient se trouver de part et d'autre de la grille derrière laquelle se trouvait le coffre contenant le Saint-Suaire de Cadouin. J'imagine cela parce que le Moyen-Âge adore la symétrie, donc on imagine aisément 4, ou plutôt 6 capitouls de chaque côté, agenouillés. Et donc c'est la preuve qu'il y avait donc des peintures réalisées, outre celle-ci, dans Notre-Dame du Thor au XIVe siècle. Des peintures qui dataient d'avant 1396, puisque le Saint-Suaire, en fait, va se voir dédier un édifice spécifique, toujours dans le secteur de Saint-Sernin, un petit peu plus loin, et va quitter donc Notre-Dame du Thor en 1396. Donc tous les aménagements que je viens d'évoquer, pour la mise en valeur du suaire et le décor peint qui l'accompagnait, ont été réalisés avant 1396. Ce sont évidemment des renseignements d'importance. Mais ce chevet, il ne va pas rester comme tel, puisque les deux absides pentagonales qui encadrent le petit oratoire carré, eh bien, vont être ajoutées au XVe siècle. Et celle du côté nord, celle-ci, date probablement du XIXe siècle. Elle a probablement été reconstruite au XIXe siècle. Donc vous voyez une église dont l'homogénéité apparente relève finalement du décor peint. C'est le décor peint du XIXe siècle qui donne en fait une réelle impression d'homogénéité architecturale, parce qu'en fait, il n'en est rien. Nous avons affaire à un édifice avec un certain degré d'hybridité, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis la deuxième moitié du XIIIe siècle jusqu'aux ajouts des absidioles pentagonales au XVe siècle. Donc un édifice qui a évolué et qui a évolué aussi au gré donc, notamment de l'arrivée du Saint-Suaire de Cadouin qui a véritablement été un événement absolument fondamental. Alors c'est intéressant de faire ce constat. Pourquoi ? Bien parce que les constructeurs du Moyen-Âge sont pragmatiques. Je dis toujours, ils sont pragmatiques, ils s'adaptent. Et les édifices, évidemment, prouvent aussi cette dimension pragmatique. Et là, la façon dont on modifie le chevet de Notre-Dame du Thor pour accueillir le Saint-Suaire de Cadouin en est une preuve absolument incontestable. Voilà, on fait évoluer l'architecture pour mettre en valeur des éléments extraordinairement importants. Entendez bien que le Saint-Suaire de Cadouin est une relique particulièrement un signe, j'insiste là-dessus. Elle aurait touché le corps du Christ, donc on se doit évidemment de l'exposer et de mettre en œuvre un petit oratoire spécifique pour recevoir ce Saint-Suaire. Alors, je vais maintenant me concentrer sur l'ultime, finalement, et le seul témoignage de la peinture médiévale dans cette église de Notre-Dame du Thor. Et il va falloir que vous vous tourniez un petit peu pour vous intéresser ici à ces peintures. Alors, je vais m'approcher peut-être si le micro est défaillant, je reviendrai à ma place. Mais je pense que c'est mieux que je me mette en face. Alors, ces peintures, elles sont intéressantes sur bien des points. D'abord, elles ont une histoire absolument incroyable. Ces peintures, elles ont été mises au jour au XIXe siècle, à la faveur donc de la campagne de restauration qu'a connu cet édifice à partir des années 1872. Elles étaient dissimulées par des boiseries du XVIIe siècle. C'est en tout cas ce que nous renseigne. On est renseigné sur ce point par les sources donc du XIXe siècle. Donc, on les découvre. Elles sont dans un état assez pitoyable. Viollet-le-Duc les a vues et a mentionné le fait qu'il avait vu d'intéressantes peintures dans l'église de Notre-Dame du Thor, mais qui pensait qu'elles étaient perdues et absolument pas restaurables. Dieu merci, on ne l'a pas écouté et on a veillé à les restaurer. Alors, des restaurations qui ont été assez épiques, on peut dire ça comme ça, parce que bien sûr, au XIXe siècle, on a restauré, entre guillemets, ces peintures, en comblant notamment les lacunes, mais en les comblant avec du plâtre, ce qui provoque des interactions très dommageables, en fait, pour la conservation des peintures. Mais bon, on les a restaurées, et surtout, on a confié... Alors, cette restauration a été confiée à Joseph Angalière, qui a procédé de façon extrêmement méthodique au relevé précis de ces peintures à l'échelle 1. Il a fait ce qu'on appelle un poncif, c'est-à-dire qu'il a disposé un très très grand papier calque et il a relevé les peintures point par point. Voilà, c'est un travail de quasiment titanesque. Et il a retranscrit en fait ce poncif sur une toile que nous conservons, qui est en forme mauvais état, je l'ai vu il y a, je sais pas, 5 ou 6 ans, et qui se trouve dans les réserves du musée des Augustins, réserves qui sont un petit peu, qui sont en banlieue toulousaine. Et c'est fort dommage, c'est une toile qui mériterait sincèrement d'être restaurée, parce que c'est un témoignage technique et aussi artistique. C'est pas un relevé dans lequel on voit la main d'Angalière, pas du tout. C'est un vrai relevé archéologique, point par point. Donc c'est quand même intéressant de conserver ce témoignage de l'état dans lequel se trouvait la peinture au moment de sa découverte en 1872. Bon. Chose très intéressante pour la façon dont on percevait la peinture médiévale au XIXe siècle, donc on la restaure, mais elle fait, je n'oserais dire elle fait tache, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais disons qu'elle n'est pas véritablement comprise dans le décor 19e qui va embellir l'édifice. Donc qu'est-ce que l'on décide de faire ? Bien, on décide de la dissimuler, après l'avoir restaurée, derrière une boiserie amovible. Alors tous les éléments de boiserie que vous voyez là datent du 19e siècle. Et donc on va créer un panneau amovible en disant, bon ben voilà, on l'a restaurée, elle est là, on la protège avec un panneau amovible, et quand on veut la voir, on enlève le panneau. Bon, très bien, sauf que on a perdu en fait connaissance de la présence de ces peintures, on les a oubliées complètement, ce qui est dramatique parce que combler les lacunes au plâtre, dissimuler la peinture derrière une cloison en bois, autant vous dire que la peinture ne respire pas, enfin, ça a été une catastrophe de la pensée moderne pour la conservation de ces peintures qui datent, je pense, du tout début du XIVe siècle et qui sont, je le répète, le seul et unique témoignage de la décoration médiévale de l'édifice. Et on va redécouvrir, mais véritablement, ces peintures complètement par hasard en 1939, parce qu'il y avait des problèmes sur les éléments de boiserie, donc on se rend compte que c'était amovible et on redécouvre les peintures dans un état absolument pitoyable. Donc on décide la restauration, mais une restauration qui ne se déclenchera que 20 ans après, 1959-1960. Il ne faut jamais être pressé hein, pour les restaurations, la preuve en est. Donc 1959-1960, la restauration est confiée à l'atelier Malessé, qui va restaurer comme on restaurait dans les années, fin des années 50, début des années 60, avec force, usage de fixatifs, voilà, de produits qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qu'on n'utilise plus dosés de la même manière aujourd'hui, parce que nous avons le recul aujourd'hui d'interactions très négatives entre certains de ces produits et la peinture médiévale. Bon, voilà. Donc c'est restauré, là aussi, avec des guillemets. Et puis c'est à nouveau dissimulé derrière. C'est pas dissimulé. Là, on les laisse comme ça. Mais ça s'encrasse, ça s'abîme, etc. Et il faut attendre. Vous êtes assis, c'est bien. 2001 pour que on se lance dans une nouvelle et ultime restauration qui est menée fort heureusement par un excellent restaurateur qui s'appelle Jean-Marc Stouff, qui est à la retraite aujourd'hui, je le déplore d'ailleurs, et il va œuvrer entre 2001 et 2005 donc à rendre à ces peintures leur éclat, non pas leur éclat originel, hein, entendons-nous bien, mais se rapprocher le plus possible d'un état archéologique intéressant. Donc il va d'abord évidemment s'évertuer à purger les ajouts des années 60 et du 19e siècle, ce qui n'a pas été une mince affaire, à décrasser aussi cette couche picturale. Et il va procéder à toute une série de prélèvements et d'analyses qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une connaissance parfaite de la technique utilisée ici et d'apprécier en fait des caractéristiques techniques tout à fait exceptionnelles. Donc, je vous parle d'abord de la technique, après je vous parlerai de l'iconographie. Vraiment tout à fait exceptionnelles. Je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que vous êtes là devant des peintures qui sont vraiment, vraiment originales à tout point de vue. Alors, ce que nous pouvons déplorer, c'est qu'en début 2000, Jean-Marc Touffe avait demandé l'autorisation de déposer les boiseries ici inférieures pour voir, en fait, si la peinture se poursuivait en dessous, éventuellement, s'il y avait des traces, un registre inférieur ou quelque chose. Il n'a pas été autorisé à faire cela, toujours pour des questions de budget, hein, vous savez, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc il n'a pas été autorisé à cela. Donc on a encore des choses à découvrir. Et je gage que le jour où nous démontrons, enfin nous, pas moi, je ne démontrerai rien, mais le jour où on envisagera de démonter, c'est pas l'envie qui m'en manquerait, je vous avoue, mais que l'on envisagera de démonter les boiseries 19e, eh bien, on trouvera encore des éléments, parce qu'on s'interroge très clairement, et je vous dis tout de suite, je n'ai pas la réponse, nous n'avons pas la réponse, sur l'organisation particulière de ce décor, qui, vous voyez, est encadré d'un motif. Voilà, donc on a une scène en fait, complète, sur laquelle je vais revenir, on n'a pas un décor à dimension narrative. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. On a le plus souvent, au XIVe siècle, dans les peintures conservées à Toulouse, des peintures qui proposent un vrai programme iconographique avec une organisation narrative. Là, on a une scène, certes, de grande ampleur, mais seule. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait forcément d'autres peintures autour qui venaient en face, sur les travées, juste avant, etc., qui, peut-être au-dessus, qui venaient compléter ce décor, peut-être. Mais c'est vrai que la localisation de ce sujet-là, ici, voilà, nous interroge, et on a pensé que peut-être c'était à mettre en relation avec la présence d'un banc de confrérie. Voilà, on connaît ces bancs de confrérie dans les églises médiévales, et que peut-être voilà, cette organisation et cette localisation spécifique pouvaient fonctionner avec un banc de confrérie. Et peut-être donc que la dépose des boiseries 19e nous donnerait des indications pour étayer cette hypothèse ou bien l'éliminer définitivement. Donc vous voyez que on n'a pas encore tout appris sur Notre-Dame du Thor, et il reste encore des choses à découvrir. Alors, d'un point de vue technique, je reviens aux données donc, issues de ce chantier de restauration tout à fait exemplaire. Et je me félicite d'ailleurs de pouvoir apprécier les peintures avec un éclairage parfait, parce que c'était fort dommage. Depuis 2005, en fait, je râlais, j'avoue, systématiquement, quand je venais ici avec mes étudiants, en leur disant « on ne voit rien, les peintures sont exceptionnelles, et en fait, elles sont très mal éclairées ». Là, c'est fini, je n'ai plus de raison de râler, elles sont extrêmement bien éclairées, et j'en suis absolument ravie. Alors, d'un point de vue technique, Jean-Marc Stouff a fait donc des prélèvements très, très précis sur des couleurs qu'il trouvait particulières, des éléments qu'il trouvait particuliers, et les résultats de ces analyses physico-chimiques ont été extrêmement intéressantes et ont révélé qu'en fait, cette grande composition peinte avait été extrêmement travaillée d'un point de vue technique. Là, vous la voyez un petit peu orpheline de tous ces ajouts et ces rehauts qui la mettaient en valeur. Ainsi, vous avez des étoiles. Voilà, il y a des étoiles là qui subsistent. Il y a des personnages couronnés. On va y revenir. Eh bien, ces étoiles et ces couronnes, il faut que vous sachiez qu'elles étaient relevées à la feuille d'or. Ça n'est absolument plus visible aujourd'hui, mais il en reste des traces infinitésimales qui ont pu être décelées. Et donc, déjà, rien que de dire cela, ça impose tout de suite une vision autre, tout autre, je pense que vous en conviendrez, de cette peinture. Il a pu relever aussi la présence donc, de minium. Alors, le minium, c'est cette couleur un petit peu orange que l'on voit ici, dans les phylactères, de cinabre également. Le cinabre, ce n'est pas n'importe quelle couleur, hein, c'est du sulfure de mercure, c'est le fameux rouge pompéien qu'on connaît donc depuis l'Antiquité romaine, donc le cinabre a été utilisé aussi. Donc une palette chromatique, en résumé, assez riche, assez dense, qui fonctionne bien d'ailleurs dans ce que l'on sait des techniques de la peinture du début du XIVe siècle dans la région, où on se rend compte, on a d'autres exemples de peintures contemporaines, je pense notamment aux peintures de la chapelle du château de Bioule, dans le Tarn-et-Garonne, où on a affaire à ce type de décors précieux, avec des ajouts de feuilles d'or, etc. Je pense aussi aux peintures extérieures du portail de la cathédrale de Cahors. Voilà, donc c'est quelque chose de connu et qui a été étudié ces dernières années. Autour de 1300, donc, on a une sorte de sophistication dans l'élaboration de la décoration picturale avec l'usage donc de techniques plutôt luxueuses, la feuille d'or, etc. Mais la découverte technique peut-être la plus exceptionnelle, assurément, c'est dans l'usage de la couleur verte. Alors vous regardez ici, c'est vert, là aussi, voilà. Un vert particulier. Le professionnel, donc restaurateur, a l'habitude, hein, évidemment, de reconnaître à l'œil certaines couleurs. Et ce vert, justement, si je puis dire, lui avait tapé dans l'œil, justement, parce qu'il n'avait absolument aucune idée de ce que pouvait être ce pigment. Donc il a procédé à un prélèvement, nano-prélèvement, je vous rassure, et il l'a fait analyser. Et c'est vrai que le résultat des analyses nous a complètement ébahis. Puisqu'en fait, le résultat des analyses a démontré qu'il s'agissait de cuprorivaïte. Vous allez me dire, oui, et alors, j'arrive. Cuprorivaïte, ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est rien d'autre, si je puis dire, que le fameux bleu égyptien, qui est en fait le premier pigment de synthèse de l'histoire de... Alors, premier, pas tout à fait, parce que le premier, c'est l'ocre rouge que l'on obtient en faisant chauffer de l'ocre jaune, et les paléolithiques faisaient ça. Donc ça, c'est le premier pigment de synthèse. Donc on va dire le deuxième, qui est connu dans l'Antiquité égyptienne, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ce pigment de synthèse, donc qu'on appelle le bleu égyptien, eh bien, il donne, là, dans un éventail chromatique vert, bleu, vert, voilà. Et c'est très, très étonnant. Pourquoi ? Parce qu'on était, jusqu'alors, convaincu que ce bleu égyptien n'était plus utilisé à partir du IXe siècle. La dernière fois qu'on en avait trouvé mention de l'usage, c'était pour les peintures de Saint Clémenté à Rome, à l'époque carolingienne. Et on avait perdu la recette, en fait, de ce bleu de synthèse. Or, voilà, il s'avère qu'on l'a retrouvé, donc utilisé autour de 1300 à Toulouse, ce qui en fait, dans l'état actuel de nos connaissances, l'utilisation en fait la plus récente qui soit. Donc c'est évidemment absolument, absolument passionnant. Et depuis lors, depuis cette découverte, eh bien, les chantiers de restauration, notamment sur la peinture romane, notamment en Andorre et en Catalogne, eh bien, ont cherché de la cuprorivaïte. Et vous savez bien qu'on ne trouve que ce que l'on cherche, et on en a trouvé d'autres exemples. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, on est à même de préciser que ce bleu égyptien, son usage ne s'est pas du tout interrompu à l'époque carolingienne, comme on le pensait précédemment, mais a perduré de façon ponctuelle jusque dans la réalisation des peintures de 1300 à Notre-Dame-du-Thor. Vous voyez que c'est quand même la preuve magistrale de l'intérêt que présente une restauration menée par des professionnels compétents. Ça nous permet véritablement d'avoir accès à des informations de tout premier ordre. S'agissant de l'iconographie, donc vous avez compris, intérêt technique évident. Alors, après, ce sont des peintures qui ont été faites à secco, c'est-à-dire des peintures sur un enduit sec. Ce n'est pas de la fresque. Hein. L'analyse du support a prouvé l'usage de liants, notamment de la caséine et de l'huile végétale. Donc, on a voilà, une peinture à la détrempe avec deux liants distincts. Et d'un point de vue iconographique, cet ensemble est absolument exceptionnel. Moi, c'est la seule composition peinte au Moyen-Âge que je connaisse représentant ce thème. Je n'ai aucunement la prétention de connaître toutes les peintures médiévales de l'Occident chrétien, mais quand même un certain nombre. Et donc, c'est le seul exemple que je connaisse de cette illustration. Ça n'est ni plus ni moins que le premier chapitre en intégralité, le premier chapitre de l'évangile de saint Matthieu, ce que l'on appelle le Liber Generationis, qui commence avec la mention suivante, la genèse de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Ça commence comme ça, et c'est ce qui est écrit ici sur le livre que porte cet ange qui descend des nuées, que lit Abraham, et Abraham tient un phylactère, à l'instar de chacune des figures de cette composition, phylactère sur lequel est écrit Abraham, et Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob. Et en fait, on a toute une litanie généalogique qui va donc d'Abraham jusqu'à Jacob, ici, Jacob, fils de Matham. Et le Jacob de la fin de la généalogie de Jésus, c'est le père de Joseph. Voilà. Donc on a en fait toute la généalogie, je vous dis une litanie généalogique d'Abraham jusqu'à Jacob, père de Joseph. Alors c'est scrupuleusement la mise en image de cette énumération donc du premier chapitre de l'évangile de saint Matthieu, avec à partir ici, donc on a 13 personnages, puis à partir du 14e, ici, on a 13 figures couronnées. Ici c'est David. Donc là, c'est Jessé, son père, David. Et on a tous les rois, donc, ici, qui sont antérieurs à la déportation des Juifs à Babylone. Une déportation qui date donc du 6e siècle, c'est ça? Je me tourne vers Philippe, tout d'un coup j'ai un doute. 592 avant Jésus-Christ. Voilà. Et après la déportation à Babylone, on reprend la litanie donc jusqu'à Jacob. Donc c'est vraiment une iconographie assez exceptionnelle, au plus proche, donc au plus près, qui suit scrupuleusement la référence scripturaire. Donc c'est. Alors, on en a d'autres exemples hein, d'iconographie, de mise en image fidèle aux sources scripturaires, mais là c'est quand même très, très flagrant, avec la présence très importante de ces phylactères, et des phylactères, vous voyez, qui font intégralement partie. Alors, le phylactère, c'est ça, ce sont les rotulus déroulés, voilà, qui font partie intégrante donc, de la composition. Et qui témoigne donc d'une iconographie tout à fait incroyable, et qui démontre aussi l'importance, et là c'est une recontextualisation de ce décor que je vous propose, qui met véritablement en avant l'importance du texte. Or c'est l'une des caractéristiques majeures de la production picturale toulousaine du XIVe siècle, que l'on a pu étudier à fond à la faveur, peut-être aviez-vous vu cette exposition en 2023 consacrée précisément à Toulouse au XIVe siècle au Musée national du Moyen-Âge à Cluny, et dans le cadre donc de la préparation de cette exposition, voilà, on a revu la totalité des peintures du XIVe siècle à Toulouse. Et ce qui ressort de cette mise en perspective de toute cette production picturale, c'est l'importance justement octroyée au verbe. Voilà, c'est quelque chose dans les peintures de la chapelle des Augustins, dans la chapelle Saint-Antonin des Jacobins, ici même. Voilà, le verbe, le mot, la parole, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental qui est mis véritablement en image. Alors, ce n'est pas très étonnant quand on y pense, parce que Toulouse, au XIVe siècle, est quand même une ville de prédicateurs, évidemment, et d'universitaires. Et donc, pour les prédicateurs et pour les universitaires, ben, le verbe, la parole, c'est quelque chose d'éminemment important. Donc, cette peinture, voilà, est originale, d'un point de vue technique, assurément. Elle était vraiment d'une qualité exceptionnelle et d'un point de vue iconographique, tout autant. Donc, je suis ravie de pouvoir la retrouver, éclairer comme il faut pour que le public puisse apprécier cette restauration, qui est vraiment une restauration archéologique et réalisée donc dans le plus grand respect en fait de l'œuvre originelle, une œuvre évidemment qui a subi bien évidemment des dégâts et qui a eu, comme je l'ai relaté, une vie particulièrement tumultueuse. Donc ultime témoignage de la production picturale de Notre-Dame du Thor. Et on va rester sur la production picturale, mais en passant au XIXe siècle, je vais laisser la parole à Christian Mange. Petite page de publicité, Philippe Faureau m'a autorisé à le faire. Vous êtes tous invités, mais vraiment très cordialement, ce dimanche, 29 mars, à 16h, pour la séance annuelle publique de la Société archéologique du Midi de la France, dont j'ai l'insigne honneur d'être la présidente, avec une conférence qui, je pense, alors vous n'êtes pas pour mon discours, hein, ça n'a que peu d'intérêt, en revanche pour la conférence qui marque toujours la séance publique, qui, je pense, vous intéressera, puisqu'elle est consacrée à, d'abord c'est Henri Pradallier qui l'a fait, Henri Pradallier est un orateur absolument exceptionnel, qui se fait rare depuis qu'il est à la retraite. Et Henri Pradalier a publié dans une collection que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Cette année-là » à Toulouse, un petit opus consacré à 1096, la date de consécration de l'hôtel de Saint-Sernin de Toulouse par Urbain II. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Donc vous êtes cordialement invité à cette conférence dimanche à partir de 16h dans la salle Clément Cisor de l'hôtel d'Assesa. Je vous remercie pour votre attention.